Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'amour dans la fabrique de l'histoire. Après le flirt des années 50 et 60 hier, nous retournons ce matin au Moyen-Âge, déjà abordé lundi avec Martin Madero en traitant de l'amour courtois. Plongeons ce matin dans le Moyen-Âge du XIIe siècle pour tenter de comprendre avec Victor Massé de l'Épinay ce qui se cache sous une expression inventée par un philologue du XIXe siècle, l'amour courtois. Que cache exactement ce terme? Que dit-il de la réalité et des fantasmes d'amour dans la société du Moyen-Âge? Comment l'historien et les historiens ont-ils évolué sur cette notion d'amour courtois depuis maintenant un siècle? C'est ce que nous allons voir avec Michel Zing. Il est professeur au Collège de France. Il est auteur récent des Troubadours, une histoire poétique chez Perrin. Didier Lette est également avec nous en studio à Paris. Il est professeur d'histoire médiévale à Paris Diderot et auteur en 2013 des Hommes et Femmes au Moyen-Âge, histoire du genre, 12e-15e siècle. Et enfin, Damien Mboquet, il sera en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Gare Lozère qui l'accueille. Il est maître de conférence à Aix-Marseille et co-auteur avec Piroche Canagy de Sensible Moyen-Âge au Seuil. Bonjour à vous Didier Lette.
Bonjour.
Bonjour à vous. Damien Boquet, vous êtes en duplex depuis les studios de Nîmes.
Bonjour.
Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour à vous Michel Zing.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, peut-être faut-il expliquer ou réexpliquer, puisque beaucoup de nos auditeurs doivent le savoir, que cette expression d'amour courtois n'était pas utilisée comme on l'utilise aujourd'hui pour parler de ce qui est considéré aujourd'hui comme la littérature de l'amour courtois par les contemporains du XIIe ou du XIIIe siècle.
Non, comme vous l'avez très bien dit, l'expression amour courtois a été inventée, si on peut dire, par Gaston Paris au XIXe siècle. Et alors, elle est commode et elle est exacte parce que c'est une littérature aristocratique et une littérature de cour, effectivement, mais elle réduit un peu cette idée de l'amour en la concernant, donnant une définition sociologique, en quelque sorte. À l'époque, on parle bien d'hommes courtois, non pas au sens moderne, mais au sens d'homme de cour, qui a les manières de la cour. Le mot courtois est bien utilisé, mais pour l'amour, on dit finamor, le mot est féminin, même au singulier.
La finamor.
La finamor, l'amour fine ou fin, et fin comme l'or est fin, c'est-à-dire c'est comme l'or est épuré par le feu. C'est un amour qui est à la fois épuré et brûlant. Cette expression de finamor est parfaite pour désigner cet amour peut-être réel, mais en tout cas poétique.
Et il faut dater la naissance justement de cette vision littéraire de cette finamor à quel moment exactement, Michel Zing?
À la charnière du XIe et du XIIe siècle, qui est l'époque du premier troubadour de Languedoc que nous connaissons, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, qui a la particularité, un, d'être un des plus grands seigneurs du temps, deux, d'être un personnage extrêmement truculent, à la vie extrêmement mouvementée, et dont on n'attendait pas l'invention, si on peut dire, si c'est lui l'inventeur, c'est peu probable, d'un amour ou d'une peinture de l'amour aussi raffinée. Et troisièmement, le fait que son œuvre, on a une dizaine de chansons, 11 chansons de lui, se répartit à peu près également entre des chansons d'une remarquable obscénité et d'autres où il célèbre cet amour délicat qui tremble de respect et de désir devant la femme aimée.
Oui, alors d'ailleurs on peut saluer la nouvelle traduction par Cathy Bernard aux éditions Fédérope qui ont lancé une collection consacrée justement à ces troubadours, donc de Le Néant et la Joie, donc les chansons de Guillaume d'Aquitaine. C'était il y a 3 ans et on peut encore la voir en traduction occident, en bilingue occitan français. Didier Lette, quand on commence à creuser ce sujet de l'amour courtois et de la façon dont il s'est inventé, on voit que tous les médiévistes sont un peu suspicieux, puisqu'en fait, on a essayé de trouver des racines à cet amour courtois, d'aller voir du côté de l'Espagne conquise par les conquérants arabes, d'imaginer qu'il y avait là quelque chose qui avait pu être une sorte de matrice. Et généralement, on s'est trompé, ou du moins, aujourd'hui, on est beaucoup plus circonspect, dit Galette.
Pas suspicieux, oui, parce que, comme vient de le rappeler Michel Zinc, c'est vrai que cet amour courtois, cette fine amour, née dans un milieu aristocratique, concerne quand même une toute petite partie de la population. Hein, je crois que, bon, on parle d'amour courtois, je pense qu'on parlera aussi d'amour tout court, sans être courtois, c'est-à-dire un amour qui, finalement, est pratiqué, senti, ressenti, fait, on va dire, dans les milieux, on va dire, les plus populaires. Et c'est vrai que là, pour le coup, on observe quand même un contraste assez important entre bon, cet amour courtois dont on va parler et qui a une tendance, en tout cas dans la littérature, à valoriser à l'excès finalement la femme, en tout cas la femme du Seigneur. Mmh. Et puis, quand même, dans la société, on va dire, la plus populaire, celle qu'on peut à laquelle on peut accéder à partir d'autres types de documentation que les sources littéraires, on se rend compte effectivement d'une situation de la femme, une situation matrimoniale bien différente.
Damien Bocquet, vous qui avez travaillé dans votre séminaire que vous avez mené pendant plusieurs années avec Piroche Kanagi, donc sur la question de l'histoire des émotions dans l'Occident médiéval, ce qui donne lieu à la publication récente de Sensible Moyen-Âge dans la collection L'Univers historique au Seuil, vous posez aussi la question de cette origine possible de cet amour dit courtois, tout en disant qu'il est difficile de trancher pour savoir s'il y a une influence, plusieurs influences, pour pouvoir comprendre en tout cas la genèse de ces textes et de cette littérature.
Oui, oui, on la repose. On la repose aussi parce que c'est assez fascinant de voir comment les historiens se sont posés cette question. C'est-à-dire pour eux, la question de la genèse était vraiment essentielle pendant très longtemps. Comme s'il fallait absolument trouver un moment où naissait l'amour, comme s'il fallait trouver aussi un moment où naissait cet amour courtois et cette espèce de modèle romantique de l'amour médiéval qui a tant infusé notre civilisation occidentale. Et donc il y a cette question des origines qui est peut-être finalement aujourd'hui pas si importante, mais qui a vraiment marqué l'historiographie pendant tout le XXe siècle.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, on s'est posé la question de l'origine, du moment. Peut-être que cette question n'est plus d'actualité. On peut néanmoins se poser la question du contexte dans lequel cet amour est né, cet amour courtois, cette forme d'expression. Et je voudrais tout de suite amener le sujet de l'Église, parce que l'Église, au même moment où naît cet amour courtois, est dans ce qu'on a appelé la réforme grégorienne, qui, Didier Lette, vous l'expliquez, promeut d'une certaine façon une nouvelle forme de masculinité avec le célibat des prêtres, avec le mariage... le mariage d'amour. L'Église tente de mettre fin au mariage arrangé. Comment est-ce que ça s'articule, cet amour courtois qui donne une certaine vision de l'homme, on verra peut-être après la dame, mais avec cette réforme grégorienne?
Oui, c'est vrai que vous avez raison d'insister là-dessus, sur cette concomitance. Alors, non, pas tellement à l'origine, mais si on regarde en gros les plus grandes œuvres, je pense à André de Chapelain, par exemple, de Amoré, qui date de 1185, c'est pratiquement le moment où naît le sacrement du mariage, comme aboutissement, on va dire, de la réforme grégorienne. Donc, c'est vrai qu'il y a une concomitance chronologique entre, on va dire, l'apogée hein, de l'amour courtois, et puis cette réforme grégorienne, dite grégorienne, qui met en place un certain nombre d'institutions. C'est difficile de voir le rapport exact. Je pense que de toute façon, il est clair que le XIIe siècle est vraiment un siècle charnière. Enfin, ça, je pense sincèrement qu'il est un siècle charnière où il y a quand même une évolution assez nette des relations entre les hommes et les femmes qui se déroulent. D'abord parce qu'on impose effectivement un cadre institutionnel identique. Enfin, on essaye, en tout cas, l'Église essaie d'imposer un cadre institutionnel identique à l'homme et à la femme. Et puis surtout, comme vous venez de le rappeler, avec au sein des masculinités une hiérarchie quand même très forte entre la masculinité supérieure, qui serait celle des clercs, une masculinité, on va dire, en dehors de tout lien charnel, une chasteté, et puis la masculinité des autres, c'est-à-dire des laïcs, et qui ont effectivement un rapport avec le charnel. Et effectivement, le charnel et le spirituel, c'est quand même deux éléments essentiels qui fondent la société médiévale et qu'on retrouve à l'œuvre dans les œuvres courtoises, bien sûr.
Le géographe qui est Victor Massé de l'Épinay aurait pu vous poser la question, en l'occurrence Michel Zinc, de savoir pourquoi ça naît à cet endroit-là. Aussi parce que effectivement c'est ça naît, vous l'avez dit, du côté de l'Aquitaine, ça se répand assez largement dans tout le sud de ce qui est aujourd'hui le territoire français. Pourquoi ça naît à cet endroit-là?
Alors là, c'est peut-être la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. On a dit, pour rester dans les relations avec l'Église, qui sont fondamentales à mon avis, on a parlé des relations, enfin des relations d'opposition, entre Guillaume IX et Robert d'Arbrissel, le fondateur
de Fontevraud.
Je pense que c'est quelque chose d'anecdotique. Je pense que la concomitance entre cette explosion de la poésie d'amour et la réforme grégorienne n'est en effet pas un hasard. Et je pense plus fondamentalement que le fait qu'au Moyen-Âge, l'amour soit devenu le grand sujet de la poésie, ce qu'il n'était pas dans l'Antiquité païenne, ce n'est pas un hasard non plus, et c'est lié au christianisme qui impose une réflexion sur l'amour, qui est à la fois... est une religion de l'amour et qui, en même temps, exclut largement l'amour physique ou le regarde avec une grande suspicion. Et donc, cette poésie, en fait, naît d'une méditation sur le désir.
Oui, vous nous dites presque que c'est une poésie de résistance vis-à-vis d'une Église qui impose ses normes.
Oui et non. Pas tellement. Une poésie de résistance, mais aussi, et plus qu'il me semble qu'on l'a vu, une poésie qui essaye d'intégrer à la vision chrétienne de l'amour cet amour relevant de l'éros, mais qui dépasse largement le simple désir charnel, et qui essaye de le récupérer. Chez un troubadour comme Marc Cabru, on le voit très bien.
Didier Lette, et puis ensuite Damien Bocquet.
Toute petite précision, dans ce que dit Michel Zin, qui est fondamental, c'est-à-dire que je pense que si on regarde le vocabulaire à mort, dilectio, etc., c'est d'abord et avant tout un vocabulaire en référence à Dieu, c'est-à-dire que c'est l'amour dei qui compte. Hein, le mot à mort, on le trouve essentiellement, enfin beaucoup, d'abord et avant tout, dans les relations avec Dieu. Je pense par exemple à Béatrice de Nazareth, qui écrit un traité sur ses extases, hein, sur une mystique, et en fait, le titre, c'est les sept manières d'amour. Donc, pour les sept manières d'amour, c'est les sept manières de communiquer avec Dieu. Enfin, c'est l'amour dei qui est le plus important.
Damien Bocquet.
Oui, alors je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. L'idée qu'il y aurait comme ça une espèce de contre-culture aristocratique laïque par rapport aux injonctions de l'Église est peut-être vraie à la marge. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des compétitions, il y a des formes de concurrence, de rivalité. Mais en fait, on baigne dans une culture qui est profondément marquée par le christianisme et qui est véritablement centrée autour de la notion d'amour, quoi, avec ce principe de spiritualisation. C'est-à-dire que la société repose sur l'amour, si ce n'est que l'amour est indéterminé en lui-même, quoi. Il est à la fois charnel et spirituel. Il peut s'orienter vers les deux directions et donc conduire l'homme soit à sa perte, soit à son salut. Et donc la vie du chrétien parfait... Et d'abord la vie du moine, surtout à partir du XIe siècle et de la réforme grégorienne, est une vie de spiritualisation de l'amour. Et finalement, ce sont des parcours similaires que l'on trouve dans la littérature monastique, allant de l'amour charnel, mais un amour charnel qui n'est pas nécessairement connoté sur un plan physique, mais qui est simplement un amour qui n'est pas encore complètement orienté vers Dieu, vers sa spiritualisation. Et on retrouve alors des schémas analogues. Alors bien sûr, c'est pas la même chose. Et cette espèce de fantasme aussi que avaient certains clercs grégoriens de faire du monde un monastère. Évidemment que là, qu'il y a une résistance de la part de la société aristocratique. Mais elle propose, en parallèle et en collaboration avec l'Église, son propre modèle au travers de sa forme d'amour. Oui.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, il y a tout de même un paradoxe. Une des grandes caractéristiques de l'amour courtois, dans les idées reçues, mais c'est quand même largement vrai, c'est que l'amoureux s'adresse à une femme mariée, souvent une femme inaccessible, mais souvent une femme mariée, donc c'est une promotion, même si l'amour n'est pas consommé, même si, charnellement, une promotion quelque part de l'adultère. Donc c'est peut-être pas un contre-modèle par rapport à ce que propose l'Église, mais il y a quand même quelque part une valorisation de l'adultère. D'autre part, Michel Zinc, vous avez évoqué Guillaume IX avec ses poèmes obscènes, vous avez dit en tout cas à grivois, aujourd'hui c'est peut-être moins choquant qu'à l'époque, mais comment est-ce que l'Église réagit à cette naissance de l'amour courtois, adultérin, grivois parfois ?
Et la grivoiserie ne choque pas l'Église. Et d'une certaine façon, la littérature d'inspiration cléricale est plus grivoise que la littérature courtoise, parce que elle jette un regard plus pessimiste sur la femme et sur les relations amoureuses.
Oui, pour ne pas dire misogyne, parfois.
Misogyne, mais quand on dit misogyne, c'est en même temps trop, parce qu'il y a en même temps une exaltation. Tout est toujours très compliqué, et quand on plaque dessus nos notions ou notre vocabulaire, on est toujours un petit peu à côté. De même pour cet amour adultère, il est vrai que la fine amour est souvent adultère et que sa théorisation, par exemple par André Le Chapelain dont on a parlé, mais qui se produit assez tard finalement,
1184,
insiste sur la nécessité de l'adultère, mais probablement cum grano salis. C'est probablement une plaisanterie. Et ce qui fonde cette exigence d'adultère, c'est que la femme aimée ne doit pas être tentée de céder par l'intimidation, par la contrainte. Elle doit pas pouvoir subir de harcèlement. Donc, si elle est d'un niveau social supérieur et si en plus c'est la femme d'un autre, alors vraiment, elle ne vous doit rien. Mais ça se produit à la marge et on voit des troubadours qui sont tout à fait représentatifs de la fine amour condamner au contraire l'adultère et l'abâtardissement, puisque c'est ça le grand danger de l'adultère qu'il entraîne.
Didier Lett.
Oui, non, je trouve que évidemment dans l'amour courtois, ce qui se superpose, c'est deux hiérarchies, en fait, deux formes de hiérarchie. À la fois évidemment le vassal qui fait la cour à la dame du seigneur, qui bon, et donc là pour le coup il y a une différence sociale relativement importante. Et puis il y a aussi l'autre hiérarchie, c'est homme-femme bien sûr, qui s'ajoute à ça. Et on voit bien que de ces deux hiérarchies naissent des rapports quand même très fantasmatiques. Et c'est vrai que l'adultère à la même époque, au XIIe siècle, est quand même d'abord, déjà et avant tout, un adultère féminin. L'adultère masculin, finalement, il passe à peu près à la trappe. On ne le voit pas beaucoup. Donc il y a un contraste là encore énorme entre cet adultère autorisé dans l'amour courtois pour la femme du seigneur, parce qu'elle est femme du seigneur, parce qu'elle est aristocratique, et puis la réalité des choses où la femme est condamnée pour adultère et pas l'homme.
Vous nous présentez, Michel Zinc, Geoffrey Rudel, dont on va écouter L'Encan de l'Ingeor.
Oui, alors Geoffrey Rudel est un troubadour dont il nous reste 6 chansons seulement et qui doit sa gloire qui a vécu jusqu'à nous. Amin Malouf, récemment encore, a écrit le livret d'un opéra sur l'amour de loin. Moins à ses poèmes, qui sont pourtant extrêmement séduisants, qui ont été très bien analysés par Léo Spitzer, qui sont une sorte de mystère limpide, qui ont quelque chose d'étrange, alors qu'en même temps, ils sont extrêmement simples. Mais il doit sa gloire moins à ses poèmes qu'à la légende qui s'y attache, ces vies des troubadours qui ont été écrites quand on a rassemblé leurs poèmes en manuscrits, mais plus dans des manuscrits anthologiques, mais plus tard, à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, et la vie de Geoffrey Rudel, le dit amoureux, sans l'avoir jamais vu, de la comtesse de Tripoli. Cette vie, enfin, l'histoire est fausse, on peut montrer qu'elle est fausse, mais on voit très bien qu'elle a été inventée à partir de 3 de ses poèmes où il parle d'un amour lointain, d'un amour de loin, de se présenter comme pèlerin auprès d'elle, outre-mer, etc. Je vois bien que j'ai pas le temps de...
Mais si, allez-y.
Et je vous dis, cette vie est très courte. Geoffrey Rudel de Blaye était de haute naissance, prince de Blaye, et il tomba amoureux de la comtesse de Tripoli sans la voir pour le bien qu'il en entendait dire aux pèlerins qui revenaient d'Antioche. Et il se croisa pour aller la voir, mais il tomba malade sur le navire et on le débarqua pour mort à Tripoli dans une auberge. Et on prévint la comtesse qu'elle était là et elle vint à son chevet et elle le prit dans ses bras et il recouvra l'ouïe et le sentir et il remercia Dieu de l'avoir laissé vivre jusque-là et ainsi il mourut entre ses bras. Et elle le fit ensevelir à grand honneur dans la maison du temple, dans le couvent des Templiers. Et le jour même, elle se fit nonne pour la douleur qu'elle eut de sa mort. Et en aquel día ella se rendet morga per la dolor que ella hat de la morte de lui. En réalité, dans une autre chanson, il dit « Oh, je suis mieux au coin de mon feu que quand on nous a surpris tous les deux, tout nous, c'est la couverture. » Donc, il devait avoir d'autres amours ailleurs. Mais enfin, bon.
Mes bells tus chants doses de lune.
Et qu'elle ne soit partie de là. Remembrant ton amour de l'ouïe. Vogue de ton âme, elle brûle ses éclipses. Si qu'elle chante, ni flouze d'albespie. Blood please kill in vert jealous in the tank lo senor perverai per che io verrai l'amor de Speron ben che me ne stiai, nai dus mas cartant me stevo. Ai, carme fus lai peleris, si che mus fus et mus tapis. Vos bels ieus bels vols remira.
L'interprétation de Paul Hillier de ce poème de Geoffrey Rudel. Que dit-il, Michel Zinck, ce poème?
Quand les jours sont longs en mai, je me plais au chant des oiseaux lointains et... Quand je suis, il y a une hésitation sur la traduction pour un poème si simple. Quand je suis parti de là, c'est la traduction la plus fréquente, peut-être pas la plus juste. Il me souvient d'un amour lointain. Je vais morne, le front penché, et si bien que ni chant d'oiseaux, ni fleurs d'aubépine ne me plaisent plus que l'hiver glacial. Et ensuite, il continuait, j'ai bien confiance dans le Seigneur par qui je verrai, dans Dieu par qui je verrai cet amour lointain, mais je ne sais pas si je le verrai, parce que nos chemins sont trop lointains. Donc, cette allusion, à cet éloignement qui a donné naissance à la légende. Mais on voit aussi que c'est une mélodie modale, qui est très proche du grégorien.
Du chant grégorien.
D'ailleurs, là, cette mélodie a été plus ou moins reprise par le Minnesänger Walter von der Vogelweide dans une chanson de croisade, enfin pas de croisade, plutôt de pèlerinage en Terre Sainte, et sans, pas une chanson guerrière, mais d'aller vers les lieux saints. Et on voit là que cet amour lointain, il demande... Comme cet amour lointain est mêlé à une aspiration religieuse, il demande à Dieu de le satisfaire, il veut se faire pèlerin pour qu'on le voit. Tout cela est mêlé. Je vais aller en Terre Sainte, pourquoi ? Pour voir celle que j'aime.
On comprend pourquoi les romantiques ont autant aimé ce type de chanson, hein, la nostalgie, oui. L'amour lointain. Alors, on retrouve évidemment tous les thèmes du
Gérard Nerval.
Du 19e siècle, oui.
Oui, mais non, mais sur Geoffrey Rudel, il y a un poème de Heine, il y a un poème de Uhland, et il y a une pièce de théâtre très très mauvaise, La Princesse d'Edmond Rostand, pour Sarah, antérieure à Cyrano, et vraiment s'il avait écrit que ça.
Damien Bocquet, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Nîmes. Vous évoquez justement cette question de Geoffrey Rudel dans l'histoire des émotions dans l'Occident médiéval, sensible Moyen-Âge, que vous avez écrit avec Piroshka Anadji, qui vient de sortir, et vous dites que cette question de la mise à distance, du retardement de l'état, crainte est une question essentielle pour comprendre ce qu'est justement cette fin à mort et cet amour de loin.
Oui, oui. Alors ça, c'est souligné quand même depuis très très longtemps. Et à mon avis, c'est vraiment essentiel, toujours dans ce processus de spiritualisation. Comme le disait Didier Lett, enfin, si l'amour est la grande affaire du XIIe siècle, je crois vraiment ce qui caractérise le XIIe siècle, c'est la rencontre entre la chair et l'esprit. Ces deux grands principes d'organisation de la culture chrétienne ont été quasiment inconciliables pendant des siècles. Et là, on voit, dans le courant du XIe siècle, venu de différents horizons, C'est la théorie de l'Eucharistie, de l'incarnation. Enfin, on voit ces deux possibilités s'articuler et pouvoir converger. Et donc, par exemple, pour revenir sur la question de l'adultère, il y a une chose qui est quand même caractéristique, c'est que l'adultère de l'amour courtois, en tout cas, n'est pas un adultère de libertinage. C'est un adultère spirituel. Et donc, si on sort de ce cadre, où là, il y a bien évidemment une forme de pied de nez de la part de la culture aristocratique par rapport à l'Église qui essaye d'imposer au même moment son modèle du mariage, on voit que l'amour courtois, qu'il soit adultère ou qu'il soit conjugal, comme c'est le cas aussi un petit peu plus tard, notamment chez Chrétien de Troyes, enfin en partie, demeure un amour spirituel. Voilà. Et donc, il y a ce principe-là de la conjugaison de la chair et de l'esprit qui vraiment, à mon avis, crée une espèce de superstructure qui n'empêche pas le conflit, qui n'empêche pas l'affrontement, mais qui permet de lire la globalité de cette littérature, de l'embrasser, voilà, tout ensemble.
Mais vous allez même plus loin avec Piroche Kanagi en expliquant que effectivement, il y a peut-être là une concurrence, une mise en concurrence entre ce modèle hétérosexuel de l'amour courtois, dites-vous, avec des modèles qui ont peut-être précédé, qui étaient, dites-vous, homo-érotiques, en particulier entre chevaliers, qui ne voulaient pas dire d'une homosexualité peut-être accomplie, mais qui étaient homo-érotiques. Et vous dites, tout compte fait, on est à une époque où l'un s'efface au profit de l'autre, en l'occurrence Damien Bocquet avec Piroche Kanagi dans Sensible Moyen-Âge.
En tout cas, je pense qu'on est vraiment au début d'un processus de séparation. Et effectivement, si vous voyez, on était dans une culture auparavant où ce qui relevait de la chair n'avait rien à voir avec l'esprit, et ce qui relevait de l'esprit, même s'il était dit représenté dans une dimension profondément érotique, n'avait rien à voir avec la chair. Or, ce qui se passe, mais dans le champ quand même très restreint, effectivement, de la culture dominante qui est de fait hétérosexuelle, c'est le début d'une rencontre possible, notamment dans la culture chrétienne, entre une certaine forme de sexualité et l'amour vrai, puisque la fine amour, c'est, comme le disait Michel Zinc, effectivement, c'est l'amour pur, hein, comme l'or est pur, mais c'est aussi l'amour authentique, c'est l'amour vrai. Et donc là s'enclenche un processus qui va prendre des siècles à être vraiment construit vers cette possibilité d'une sexualité qui participe de l'amour spirituel. Or, ce que l'on voyait préalablement dans une culture aristocratique qui était profondément, enfin, qui est profondément masculine, c'est que dans le cadre d'une séparation de ces deux amours, eh bien, on avait une exaltation de l'affectivité masculine entre aristocrates, qui ne prêtait absolument pas à soupçon, à ambiguïté. Or, à partir du moment où, sur le flanc hétérosexuel, une rencontre devient possible entre la sexualité et l'amour vrai, eh bien, d'une certaine façon, c'est le soupçon qui est progressivement glissé dans les relations homo-affectives masculines. Et c'est là que l'on
c'est
voit...
Pierre Damien et le livre de Gomorre et la question de la dénonciation de l'homosexualité par Pierre Damien en 1051, dites-vous, hein, c'est cela. Dites Guélette.
Oui, non, mais je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit l'un et l'autre. C'est-à-dire que je crois qu'il faut, enfin, Damien a bien résumé parfaitement, je trouve, les choses. C'est-à-dire que c'est moins, cette condamnation des relations, on va dire, homosexuelles, masculines en tout cas, tient moins au fait d'une augmentation ou d'une diminution dans la réalité des types de relations.
Bien sûr, c'est tout ça, on est dans la...
Voilà,
parce que,
bon, il y a des discours qui font croire, on va dire, entre guillemets, que la société médiévale aurait été relativement, on va dire, homosexuelle jusqu'au 11e, 12e siècle, et que subitement, l'Église aurait mis fin à tout ça. Je crois que Damien Bocquet a bien expliqué que, en fait, c'est évidemment cette rencontre, cette impossibilité à partir du 12e siècle, ou en tout cas cette grosse difficulté, impossibilité, pour des hommes... Les femmes, on sait très peu de choses. Hein, l'homosexualité féminine apparaît très très peu dans les sources. Mais en tout cas, l'impossibilité d'une reconnaissance de relations entre deux hommes en dehors de la sexualité. Le terme même d'homosexualité, qui évidemment est créé beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, indique bien de quoi il s'agit. On attire l'attention sur le sexe et non pas sur des mots qu'on pourrait utiliser à la place comme homosociabilité, homoaffectivité, qui serait évidemment beaucoup plus juste.
Victor Massel Lépiné.
Oui, on parle de cette fine amour. Nous sommes cinq hommes pour en parler ce matin. J'ai une question toute simple. C'est, et la femme là-dedans, pas la femme, pas l'homosexualité féminine, mais cette figure de la dame qui est dans la fine amour, c'est en fait la grande absente de l'amour.
Bon. Michel Zinc.
Oui, deux choses. D'abord, sur la question de l'homosexualité et de la fine amour, il me semble, moi, je ne suis pas historien, je me trompe peut-être, que la focalisation est si je peux dire les choses aussi grossièrement, sur la pénétration. C'est-à-dire que ce qui est condamné, c'est la sodomie, et ce qui est condamné, c'est l'adultère qui va jusqu'au bout et qui entraîne le danger de la bâtardise. Mais des rapports, des relations affectives, même assez poussées, entre personnes, soit du même sexe, soit de sexe opposé, sont
assez
bien tolérées ou autorisées, et on n'y voit pas. Ils n'avaient pas lu le bon docteur Freud et ils n'y voyaient pas tout de suite ce que
nous y voyons.
Quant à l'amour éprouvé du côté des femmes, alors là encore, du point de vue de, non pas de la réalité, mais de l'expression poétique, il apparaît assez nettement qu'on rapporte aux femmes et à la sensibilité féminine un certain type, une certaine façon de vivre et d'exprimer l'amour. Et à la sensibilité masculine, une autre façon de le vivre et d'exprimer. La poésie aristocratique courtoise est masculine. Elle l'analyse, même quand ce sont des femmes qui l'écrivent, même chez les Trobeiritz. Elle analyse le sentiment amoureux, elle disserte sur lui, elle essaye de le comprendre. Et il y a à côté des chansons de femmes, comme nous disons, qui sont supposées composées par des femmes, mais qui souvent sont composées par des hommes, le roi Dom Denis de Portugal, Martin Codax, etc., et ou des chansons narratives dont l'héroïne est une femme. Et alors là, la tonalité est différente. C'est une sorte de, comme de sensualité candide, d'aveu, mais innocent, d'une sensualité qui ne cherche pas à se réfréner parce que elle ne voit pas le mal, et parce que ce sont des poèmes qui refusent une sorte d'auto-introspection trop poussée.
On écoute
ça dans toute l'Europe.
On écoute d'ailleurs un extrait de Béatrice de Die, Trobeiritz, comme on dit, donc une femme troubadour. L'ensemble Flore Nouvelle qui interprète « A chantar mer » de Béatrice de Die, Trobeiritz. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Michel Zinc, vous nous disiez? Ça n'est pas parce qu'une femme écrit qu'elle est très différente d'un autre troubadour et elle parle à peu près la même manière que quelqu'un d'autre de la fille à mort.
On le voit dans cette chanson de la comtesse de Die. Il y en a une autre de la comtesse de Die qui a la tonalité des chansons de femmes, c'est-à-dire cet aveu de la sensualité, comme j'aimerais tenir mon ami nu entre mes bras, etc. Là, c'est une chanson d'une femme qui se sent délaissée, qui sent que son ami ne l'aime pas. En ce sens, on est dans la tonalité des chansons de femmes. Mais en même temps, une chanson extrêmement analytique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je l'aime comme ceci et même comme cela. Et c'est le ton de la poésie masculine des troubadours.
Vous avez noté dans votre livre sur hommes et femmes au Moyen-Âge, Didier Lette, que cette fine amour apparaît en même temps que une autre figure féminine très importante de la religion chrétienne, c'est-à-dire l'expansion du culte marial et de la figure de Marie. Est-ce qu'on peut faire autre chose que de noter la concomitance, ou est-ce qu'on peut en dire plus de cela que cela, Didette?
On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours ce 12e siècle où il se passe quelque chose, de toute façon. Et c'est vrai que le contraste est d'autant plus saisissant entre la glorification de figures un peu fantasmatiques, féminines. C'est vrai donc de la femme du Seigneur dans la fine amour, mais c'est vrai évidemment de Marie, qui est évidemment une figure absolument inaccessible. Est-ce que la grande question qu'on peut poser, c'est est-ce que la promotion de Marie à travers donc le culte marial qui se développe quand même à partir surtout de cette époque-là, du 12e siècle, 13e siècle, est-ce que cette promotion extraordinaire de Marie est accompagnée d'une amélioration de la condition féminine ou pas? Et j'ai bien peur que non, au contraire. Hein, ce qui se passe, c'est plutôt, si on observe la société, c'est plutôt, de manière concomitante, une dégradation du statut de la femme.
Michel Zinck, puis ensuite Damien Bocquet. Michel Zinck.
Oui, alors la ressemblance entre la poésie mariale et la poésie amoureuse profane, il n'y a pas de poésie profane, mais enfin, si on veut le dire comme ça, est tout à fait frappante. Mais il me semble que dans le domaine poétique, ce culte marial a joué à la marge, c'est-à-dire qu'on a plutôt appliqué à la Vierge les formules de la poésie d'amour. En revanche, ce qui est fondamental et dont nous avons tous déjà parlé, c'est cet effort pour penser l'amour d'une femme dans le cadre de la totalité de l'amour et de la totalité des formes d'amour, et de trouver une place pour l'éros qui ne le condamne pas complètement. On le voit au XIIIe siècle, qui est une époque de formalisation des grandes trouvailles du XIIe siècle, on voit dans toute l'Europe une poésie plus intellectuelle, en quelque sorte, qui réfléchit sur les différentes formes d'amour et finit par définir la place de l'éros, soit au regard du plan de Dieu, soit pour la reproduction dans le roman de la Rose, soit comme chemin vers Dieu dans l'œuvre de Dante, soit en mettant en garde, comme dans le Bréviaire d'amour de Maffroir Mangot, qui termine par le périlleux traité de l'amour des dames, mais en se fondant sur la poésie des troubadours. Et juste encore, à la charnière entre les deux, il y a ce que on appelle à l'époque l'amour naturel, et sur laquelle il y a une grande réflexion, et l'amour naturel, c'est l'amour des parents pour les enfants, des enfants pour les parents, pour les membres de sa famille, un amour qui est à la fois charnel, parce qu'il tient la chair au sang, et qui n'est pas érotique, et qui pose des questions.
Damien Bocquet.
Oui, il y a deux choses que je voudrais rajouter, c'est par rapport à la figure féminine, il y a aussi cette dimension de l'Église qui se tourne profondément vers la pastorale à partir du XIIe siècle. L'Église, qui est une institution masculine, même s'il y a des nonnes, finalement rencontre au XIIe siècle la moitié de l'humanité. Et donc, il faut bien en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Et les femmes, elles-mêmes, ont leur propre discours et exigences. Et puis, il y a une autre remarque par rapport à ce que disait Diélette, que je partage complètement. Sur cette construction de l'amour, on constate que au XIIe siècle encore, lorsqu'il est question d'amour, les hommes et les femmes en parlent de façon identique. Et en tout cas, on leur prête des modèles un peu comparables. Donc de la même façon que les hommes, d'une certaine façon, se féminisent dans la relation amoureuse, eh bien, les femmes utilisent le vocabulaire de la féodalité, un petit peu guerrier, du service, du conseil, etc., de la fidélité. Et on voit qu'il y a une forme d'indétermination de ces deux amours. Alors que, à partir du XIIIe siècle, là encore, dans de nombreux discours, on voit les identités de genre quand même devenir plus marquées, et l'idée selon laquelle il y a un amour strictement viril et un amour davantage féminin. Et si les glissements sont toujours possibles, et ils le resteront, eh bien, il y a aussi au niveau de la culture une divergence, chacun rentrant un petit peu dans une case, et on voit que c'est pas l'avantage de la femme, évidemment.
Oui, non, les questions posées par Michel Zinc pour l'écriture des troubadours, femmes et hommes, et ce que vient de dire Damien Bocquet, est à mon avis essentielle. C'est-à-dire, la grande question que doit se poser le médiéviste, c'est est-ce qu'il y a une écriture féminine? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que les hommes et les femmes partagent de toute façon une même culture. Ce qui domine, c'est quand même le... Et donc, cette idée que la femme est inférieure à l'homme est partagée absolument par tout le monde, y compris les femmes. Hein. Donc, il faut éviter, évidemment, de plaquer nos propres conceptions contemporaines féminines, etc., sur une société qui ne l'est pas. De fait, on pourra toujours trouver, effectivement, on pense à Christine de Pizan en particulier, à la fin du Moyen-Âge, on pourra toujours trouver des discours de femmes qui se démarquent et qui critiquent, évidemment, la domination masculine. Mais globalement, d'où la difficulté, évidemment, de reconnaître une écriture de femmes ou une écriture d'homme. Mais je crois qu'il faut abandonner cette idée, voilà, qu'il y aurait une écriture spécifiquement féminine au XIIe siècle et spécifiquement masculine. C'est très compliqué, mais bon, Michel Zinc est bien placé pour le savoir.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors, dans cette construction de l'amour qu'évoquait Michel Zinc, où on essaye d'ordonner Eros, amour charnel, consommation sexuelle, il y a une notion qui peut permettre d'aborder cette question, c'est celle de délectatio morosa. Mm-hmm. Délectatio morosa, morosa, pas au sens de morose triste, mais au sens de morose qui se fait attendre, qui tarde à arriver. Et cette notion montre un peu, permet d'articuler la réflexion. En fait, l'idée, c'est que le plaisir est plus grand. Enfin, il y a un plaisir au désir, en fait. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça. L'attente est un plaisir supérieur.
Michel Zinc.
Voilà, oui, ça, c'est l'idée fondamentale de la poésie des troubadours. Donc, de la poésie masculine. C'est la poésie masculine. Mm-hmm. Parce que le désir, l'amour, c'est le désir. Et le désir doit être entretenu et exaspéré. Et le désir sait que quand il sera assouvi, il disparaîtra comme désir. Donc, ce que désire le désir, c'est sa propre mort. Et c'est ce qui fait de l'amour un sentiment contradictoire et qui est à la fois exaltant et douloureux. C'est le noyau de la poésie dite courtoise, de la poésie des troubadours.
Mais là encore, l'Église a quand même réfléchi aussi à cette question-là, puisque pour reprendre sur la question de l'adultère, il y a cette phrase dans l'Évangile de Jésus, quiconque regarde une femme avec désir a déjà commis l'adultère, et donc il y a eu toute une réflexion théologique aussi sur cette délectatio morosa.
Oui. Alors, en ce sens, oui, la sévérité de l'Église est incompatible avec l'entretien de ce genre de désir. Mais enfin, il faisait avec.
Avec ses contradictions, Damien Bocquet, vous dites...
Plus cohérent que nous.
Vous dites, dans Sensible Moyen-Âge, Damien Bocquet avec Piroche Canagy, vous dites ces contradictions sont profondément mêlées et au bout du compte, il est difficile de les démêler. Le plaisir et la douleur, l'espoir et l'angoisse, le contentement et les mélancolies, l'anticipation de la jouissance et la souffrance dans le présent du manque, tout cela, ça marche ensemble d'une certaine façon.
Ça marche ensemble dans la culture de l'amour courtois et dans la culture ecclésiastique aussi. Alors pour la délectatio morosa, qui est une notion scolastique à l'origine, c'est pas du tout une notion de poète, hein, c'est une notion de théologien. Il faut rendre hommage à Charles Baladier qui a écrit un superbe livre et qui est un grand pionnier justement de ce dialogue des discours qui viennent de différents horizons.
Eros au Moyen-Âge.
Il y a cette idée. Oui, c'est ça. Oui, de Charles Baladier. Et il y a cette idée qui est profondément marquée dans le christianisme. On dit souvent que le christianisme est une religion du désir. À la fois, je suis d'accord, mais je pense que c'est peut-être plus encore, et je voudrais pas choquer, une religion du plaisir. C'est-à-dire que le désir est absolument central, mais c'est un désir qui entraîne du plaisir. C'est-à-dire que l'anticipation de la satisfaction à venir, la satisfaction suprême, c'est quand même la contemplation de la face divine, suscite déjà un contentement possible. Et c'est le principe même de l'extase. Alors bien sûr, un contentement qui est mêlé de douleur, parce que l'union n'est pas faite, et donc il y a cette distance. Et on retrouve exactement ce même jeu entre le plaisir de l'anticipation du désir assouvi et la douleur, la tristesse du fait qu'il n'est pas là. Ce va-et-vient, il se trouve exactement, d'un point de vue structurel, dans les deux constructions ecclésiastiques et aristocratiques de l'amour.
Mm-hmm. Oui, non, il faut bien admettre que voilà que dans le discours ecclésiastique, la sexualité est centrale. Enfin, ce que rappelait Martha Médéro lundi, oui. Hein, c'est qu'en fait finalement, ce qui fait l'union des corps, avant tout pour l'Église, ce qui ce qui fait le mariage parfait, hein, très souvent, enfin, c'est avec cette théorie coïtale, l'idée que il faut qu'il y ait pénétration, c'est ce que disait Michel Zinc, et il faut qu'il y ait mélange des semences, hein. Et donc il y a toute une réflexion, même à l'intérieur même du couple conjugal, il y a toute une réflexion de l'Église sur qu'est-ce qui fait le vrai amour, en fait. Et le vrai amour, c'est l'amour conjugal, matrimonial, et il faut qu'il y ait effectivement pénétration et mélange des semences.
Et on le voit par exemple dans la Somme le Roi, donc un traité d'éducation morale commandé par Philippe le Hardi pour son fils, etc. Et dans la Somme le Roi, il y a un développement sur le mariage où on dit attention, la femme est pudique, donc elle n'ose pas demander. Et il ne faut surtout pas qu'elle soit frustrée. Donc, il faut que le mari soit délicat, devine à certains signes qu'elle a envie et la satisfasse. Et à propos justement de l'obscénité cléricale, il y a un pendant de ça pendant, si j'ose dire, dans un fabliau qui est l'avoine à Morel, hein, l'histoire d'une jeune femme qui n'ose pas demander. Hein, et alors, son mari a pitié d'elle et lui dit « Bah, écoutez, si vous n'osez pas demander, dites Morel, c'est le nom d'un cheval noir, c'est-à-dire que c'était une brune, n'est-ce pas ? Morel a envie d'avoine, et Morel aura de l'avoine. Et alors, du coup, c'est si facile à demander qu'elle le demande tout le temps et qu'il n'en pleut plus. Mais c'est une idée absolument de l'Église. Il est...
Tout à fait.
Je mire d'amour et de la saignée par des fautes
magnifique « Je muire d'amour » de Adam de la Halle, interprété par l'ensemble Léonès. Peut-être pourrait-on conclure sur cela, Michel Zinc. On meurt d'amour ?
Alors oui, on meurt Adam de la Halle est, au regard de la période dont nous avons parlé, un poète tardif. C'est la fin du XIIIe siècle. À ce moment-là, cette poésie courtoise s'affadit un petit peu. Et justement, on dit « je meurs d'amour », on le répète même, « je meurs d'amour », on le répète et on meurt pas, finalement. Et à l'époque précédente, si je puis dire, Adam de la Halle est un très grand poète et, comme on l'a entendu, un très grand musicien, c'est tout à fait différent de ce qu'on a entendu avant. À l'époque précédente, on ne meurt pas vraiment d'amour, et c'est encore pire. Regardez, même Tristan, Tristan est malade, il est blessé à mort, et quand il croit que la voile est noire et qu'Iseut n'arrive pas, il dit « je ne peux retenir ma vie plus longtemps ». Il allait mourir, mais là, il ne peut pas il pouvait la retenir encore un petit peu, et là, il ne le fera pas. Et on voit, au contraire, dans les romans, dans les poèmes, que le tragique de l'amour, c'est une souffrance infinie. On est sur le point de mourir, mais on n'en meurt pas vraiment.
Un dernier mot sur ce point, Damien Bocquet.
Oui, alors un dernier mot peut-être pour juste glisser une possibilité. C'est la place de l'amitié dont on ne parle pas beaucoup. Et
on peut aussi de la mort.
On peut être amoureux d'amitié aussi.
Exactement. C'est-à-dire que on voit cette présence. Alors il y a cette présence, de l'amour courtois dû à Gaston Paris et d'autres, quoi. Mais c'est une littérature qui est profondément marquée par l'amitié. Et toute cette culture laïque et religieuse l'amicitia compte énormément. Mm-hmm. Or, l'amitié, c'est par principe un amour qui combine justement la possibilité du charnel et du spirituel. C'est l'amour électif par excellence. Et donc, c'est peut-être le véritable amour courtois.
Merci Damien Bocquet. Michel Zinc, un dernier mot.
Damien Bocquet a tellement raison que j'ai eu tort, moi, tout à l'heure. Il y a une mort d'amour qui est une mort d'amitié. C'est Galeo, le fils de la belle géante, le roi des îles lointaines, qui favorise les amours de Lancelot et avec Guenièvre, et qui aime tellement Lancelot qu'il meurt d'amour quand il croit que Lancelot est mort.
Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur les derniers développements de cette histoire consacrée à l'histoire justement de l'amour courtois tel qu'on l'a inventé au 19e siècle pour le terme, mais effectivement nous parlions essentiellement du 12e et 13e siècle avec Michel Zinc dont le livre Les Troubadours, une histoire poétique est publié chez Perrin, avec Didier Lette dont Hommes et femmes au Moyen-Âge, une histoire de genre, du genre 12e, 15e siècle est publié chez Armand Collin, j'y arriverai, et puis Damien Bocquet avec Piroche Canadj, donc auteur de Sensible Moyen-Âge, une histoire des émotions dans l'Occident médiéval qui vient de paraître chez l'univers historique au Seuil. Et je cite effectivement la collection de Fédérope, bonne collection, avec des préfaces de Pierre Bec ou d'autres comme Cathy Bernard, des poètes troubadours. C'est donc dans une collection qui s'appelle Troubadours. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous vous parlerons du tragique crime passionnel.